27 right, wind 250 degrees, 1
clear.
Clear.
Green. SL.
Hey, salut à toi et bienvenue. Ça me fait très plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode du podcast de l'expérience Shiban. L'expérience Shiban, si tu nous découvres, c'est un podcast aéro où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés de machines volantes. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère tous que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Si, comme moi, tu as passé un certain temps, ou plutôt un temps certain, sur Internet à regarder des vidéos d'avions, tu es forcément tombé un jour sur un reportage dans lequel des avions passaient proches, ou même, semblerait-il, carrément dans les orages. Alors moi, je me souviens notamment d'un morceau de vidéo sur YouTube qui m'avait complètement bluffé, où on voit un avion météo américain, probablement un Lockheed P-3 Orion, qui passe dans l'œil d'un cyclone. Alors, dans une partie de la vidéo, c'était le calme plat, on avait une vue grandiose de nuages noirs immenses à 360 degrés. Et quelques instants plus tard, des turbulences comme j'en ai jamais eu, ou je touche du bois en tout cas, pourvu que ça dure. j'arrête de divaguer, venons-en au sujet. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Dominique, qui est, vous l'aurez deviné, pilote sur avion météo. Alors, pour être un peu plus précis, il est pilote sur ce qu'on pourrait appeler un laboratoire volant qui va servir, une fois équipé, à faire tout un tas de mesures qui aideront à des recherches scientifiques. Avant de faire un focus sur cette aviation très particulière, on reviendra sur le parcours passionnant de Dominique qui a, avant ça, été pilote sur Atlantique dans la Marine nationale et qui a eu une très riche carrière opérationnelle. Encore un programme bien chargé pour ce nouvel épisode de l'expérience Shiban, alors c'est parti sans plus attendre. Bonjour Dominique.
Et bonjour Sébastien.
Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur l'expérience Shiban. Merci à tes collègues de Saphir également, que nous avons croisés à Aeroscopia il y a quelques mois et qui nous ont mis en contact. Je te propose de découper cet épisode en deux grandes parties. On va commencer par revenir sur ton parcours militaire de pilote sur Atlantique, avant de passer à ton travail actuel de pilote chez Saphir, donc le service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement. C'est bien ça ?
C'est tout à fait ça.
Très bien. Alors, le tout saupoudré, si possible, de petites histoires et de petites anecdotes qu'on adore à l'expérience Shiban. Qu'est-ce que tu en penses ?
Bah écoute, merci déjà de m'accueillir ici dans l'expérience Shiban. Et puis, ça va être avec un grand plaisir que j'aurai à partager et à raconter une carrière aéronautique, comme tu l'as dit, en deux parties. Avec cette première partie dans l'aéronaval et puis cette seconde entre ciel et mer, finalement, ces deux carrières. Une partie au-dessus de la mer et une deuxième tournée vers le ciel.
C'est joliment dit. Alors, pour commencer en douceur, est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a amené à l'aviation, s'il te plaît, ton parcours du moment où tu t'es dit que tu voulais être pilote d'avion et jusqu'à ton premier travail de pilote professionnel ?
Alors ça, ça c'est la question à chaque fois. Je crois que tout aéronaute s'attend et va devoir y répondre. C'est finalement, il se retrouve forcément un jour devant quelqu'un qui va lui dire pourquoi tu as voulu faire ça ? Pourquoi tu veux ? Je crois que c'est une question à tiroir. En fait, je me la suis posée plusieurs fois, on me l'a posée plusieurs fois. Et la première réponse, quand on ouvre le premier tiroir, elle paraît simple, c'est mais parce que j'avais envie, parce que ça me fait rêver. Mais bon, on est bien conscient que là, c'est un peu universel comme réponse, tout le monde pourrait la faire. Et le deuxième tiroir, c'est là, ça va toucher plus à l'intime, ou en tout cas à l'histoire de chacun, et c'est pourquoi. Mais alors, oui, ok, t'as envie, ça te fait rêver, mais pourquoi ? T'as envie, pourquoi ça te fait rêver ? Et là, on va commencer l'inventaire de nos petites affaires personnelles. Et alors, pour ce qui me concerne, c'était des personnes, des objets, des sensations, des sons. Alors, des personnes, j'avais un grand-père qui était marin, avec déjà un récit qui poussait vers le voyage, en tout cas. L'ouverture, un père pilote, on commence déjà à mettre un pied dans l'aviation, et puis parmi les objets, donc une collection de Bug Dany sur les étagères, donc incomplète, qui en tant qu'adolescent, je me suis chargé de compléter, donc en quête de ces fameux épisodes qui manquaient, et évidemment à leur lecture, Et puis, c'est aussi des sons, des sensations. Donc, invité sur des meetings aériens où là, le bruit des moteurs, l'odeur caractéristique d'un hangar d'aviation qui, je crois que pour qui est déjà rentré dans ce type de hangar, est une odeur que tout le monde reconnaît, qui est un mélange de graisse, de cuir, en tout cas, qui est très caractéristique. Et puis, je crois que ça fait tout ça un faisceau de sensations qui motivent et qui se disent un jour, quand on a entendu le bruit d'un avion qui passe, voilà, ça fait vibrer quelque chose et qui nous met en marche et qui nous pousse à accéder à ce rêve de mettre ses fesses dans un cockpit et enfin de décoller et de voir la Terre sous un autre aspect.
Mmh. Et donc ça, c'est ce qui t'a donné envie de te lancer. Comment concrètement tu as mis en place ton projet pour y arriver? Tu es passé par la marine, donc tu t'es formé, c'est la marine qui t'a formé, tu as été sélectionné avant, comment ça s'est passé?
Alors, oui, parce qu'en fait c'était une époque où évidemment pas d'internet, donc j'aurais tendance à dire que l'objet le plus évolué technologique dans une maison était peut-être la télé, qu'il n'y avait pas de télécommande. Alors là, je parle au moment où je suis né. Mais avec, il fallait se lever et appuyer sur des boutons pour avoir une image en noir et blanc. Et donc, quand on était avide d'un parcours curieux de savoir comment on pouvait accéder à l'aéronautique, on se déplaçait. C'était les rencontres plus qui faisaient... des rencontres ponctuelles qui faisaient qu'on s'engageait sur une voie. Alors, l'aéronaval était quelque chose qui existait dans mon esprit parce que je l'avais côtoyé à travers ces BD, Bug Dany, à travers ce que j'évoquais tout à l'heure, une histoire familiale. Et je suis tombé un jour sur un dépliant, devenait pilote du groupe O et qui montrait en fait un croisadeur à l'appontage sur un bateau, et donc ça a été le mon guide pour postuler. Il disait venez passer les tests de sélection. J'avais déjà intégré en fait un lycée militaire pour finir mes études. Cette aviation militaire était quelque chose qui m'attirait et elle s'est concrétisée voilà avec ce dépliant qui incite les gens à venir passer des sélections, donc sans savoir en tout cas, on n'avait aucune idée de quelle était la nature de ces sélections. Et donc, on arrive et on est engagé comme matelot. On nous installe dans un avion et on nous fait répéter quelques figures de voltige. Et puis, ceux qui étaient jugés aptes avaient le droit de continuer. Et donc, après cette sélection militaire initiale, finalement...
C'était à Rochefort, donc, pour toi, c'est ça?
Donc, c'est ça. C'est à
Rochefort sur Cap 10.
Rochefort sur Cap 10.
Okay.
Donc, c'était un avion déjà assez évolué, puisque dans les aéroclubs, le Cap 10 faisait office, ou en tout cas représentait déjà un avion de voltige pour pilote expérimenté, qui avait déjà acquis les bases pour du pilotage privé. Déjà, on avait tout de suite l'impression de mettre un pied dans le rêve, en tout cas sur des machines qui faisaient déjà rêver, rien que voler la tête en bas et faire de la voltige des premières heures de vol. Était quelque chose qui était motivant, même si c'était assez sélectif. À cette occasion, on voyait quand même pas mal de nos camarades, puisqu'on arrivait tous finalement avec un background assez léger aéronautique, mais cette sélection, comme elle porte bien son nom, était là pour n'en garder que quelques-uns. Et donc après cette sélection sur Rochefort, c'était direction Cognac, où pour ceux qui avait été jugé apte à pouvoir poursuivre une formation, aller là pour déterminer quelle allait être l'orientation future. Donc à savoir qu'on rentrait tous comme pilotes de chasse, et ce qui était... je suis rentré dans les années 86, et donc le film emblématique de cette époque, c'était Top Gun 1. qui avait pour mérite de montrer pour la première fois des images à bord d'un cockpit. Et jusqu'à présent, c'était Papy Boynton, les têtes brûlées, on voyait quelques balles traçantes qui partaient d'un avion, mais on n'avait jamais été embarqué. Évidemment, il n'y avait pas YouTube et il n'y avait pas toute la pluralité des vidéos qu'on peut voir maintenant, auxquelles on peut avoir accès. Donc là, c'était la première fois qu'on se retrouvait embarqué dans un avion de chasse. Il faut quand même avouer que ça faisait rêver, ça a été un moteur puissant pour et qui plus est, c'était dans l'aéronaval. Donc c'était un moteur puissant pour se dire que c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Donc le Cognac, qui est à nouveau un parcours, enfin dans le parcours, un moment où on prend un peu plus d'expérience et où se détermine en fonction et des aptitudes de chacun et des besoins des différentes armées, l'orientation future. Et donc pour ma part, je me suis retrouvé orienté vers l'aviation de patrouille maritime, ce qui n'était pas mon premier choix, donc avec une première déception à digérer malgré tout, qui n'a pas été rédhibitoire, même si, faut l'avouer, quand on, le moteur au départ et les sélections sont faites pour sélectionner des pilotes de chasse, et ensuite la répartition se fait. Donc je le dis à tous ceux qui nous écoutent, il y a une vie aussi à côté aéronautique, à côté de la chasse, et finalement ce que m'a appris ce premier échec, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là, on ne fait que dans l'aéronautique que rebondir, et ce n'est fait que d'opportunités. Et la suite de l'histoire, pour moi en tout cas, a été extrêmement heureuse. Mm-hmm. Et passer cette petite déception, ça a été vraiment une découverte d'un autre monde sur lequel je ne m'étais pas penché et qui m'a amené dans un premier temps à une escadrille. Donc quand on sort et qu'on est breveté pilote de transport tel que c'était dénommé, le but de la marine était d'amener ces pilotes de transport à devenir pilotes de patrouille maritime. Et donc avec une spécialité qui consiste à faire des missions. Et finalement, la maturation du pilote qui sortait de l'école se faisait en escadrille, où là, effectivement, ça pourrait s'apparenter à une mini-compagnie aérienne. Donc à l'époque, on disposait de trois types d'avions, du PA-31, du Nord 6-2 et du Falcon 10. Donc ça permettait de faire des pistons, turbines et réacteurs au sein d'une même formation qui était d'une richesse incroyable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué et dès qu'on vole sur des avions un petit peu performants, on limite le nombre de qualifications parce que les avions, l'environnement est devenu plus complexe. Et donc, y a la volonté de rester focus sur un type d'avion et pas trop se disperser. À l'époque, on avait cette chance de pouvoir piloter tous ces types d'avions et donc, évidemment, c'était déjà d'une richesse incroyable.
Chance que tu as encore aujourd'hui, d'ailleurs. Enfin, on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais c'est vrai que tu fais partie aussi des rares pilotes qui volent sur plusieurs machines différentes grâce à Saphir. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc là, tu étais à hier et tu volais donc sur ces trois avions-là pendant 4 ans, c'est bien ça?
Tout à fait. 4 ans, donc avec des vols à travers l'Europe. Et c'était déjà, une partie du rêve qui commençait à se réaliser, à savoir au moins les voyages. On n'était pas donc complètement dans une aviation de mission, même si cette partie transport était en support à des avions de mission, ou en tout cas à aux missions de la marine. Ça nous a permis ça nous permettait à nous, jeunes pilotes, d'explorer une partie de l'Europe. On n'était pas encore transatlantique, on n'était pas long courrier, mais en tout cas, on pourrait l'assimiler à ce que ferait un A320 aujourd'hui sur du court, moyen courrier, avec tout type d'avion et avec cette particularité qu'on passait commandant de bord assez rapidement, puisqu'il y avait plusieurs types d'avions. On avait la possibilité de passer commandant de bord sur PA-31 et en revanche continuer de copilote sur les autres avions, ce qui est une petite particularité qu'on retrouvera souvent dans la marine et dans les armées en général. On est souvent testeur, puis testé, instructeur, puis en instruction. On a ce double rôle, on en reparlera peut-être après, mais patrouille maritime où finalement, après avoir été instruit, on instruit à nouveau. Et puis, cette instruction ou cette expérience, on retourne au sein des forces la partager avec les nouveaux qui arrivent. Donc, après cette période, j'ai eu la possibilité de rejoindre ce qui était l'aéronef emblématique de la patrouille maritime, à savoir l'Atlantique.
Mmh. Alors, juste avant de parler de l'Atlantique, tu as donc commencé ta carrière à hier sur plusieurs avions différents, à une époque où l'armée faisait passer tous ses pilotes en officiers, au lieu de sous-officiers jusque-là pour une partie d'entre eux. Alors, ça m'intéresse de savoir pourquoi l'armée a décidé de faire passer tous ses pilotes en officiers. Pourquoi ils n'ont pas continué comme c'était le cas avant?
Oui, c'est vrai que finalement, les recrutements et la sélection que j'ai passé initialement faisait qu'on recrutait des matelots. Et il y avait encore, à cette époque, des pilotes de croisadaires qui étaient l'équivalent de hommes du rang, matelots avec le pompon. J'exagère un peu. Mais rapidement, les missions sont devenues plus complexes, plus interarmes, interalliées. Et donc, le pilote, soit de chasse, soit de patrouille maritime, projeté sur des théâtres à l'étranger, devenait, en tant que commandant de bord, ou chef de bord, représentatif d'un moyen qui était mis à disposition d'une, on va dire, des autorités en charge d'une opération plus vaste. Donc, il y avait un problème de représentativité. Donc, de matelot, les pilotes passaient rapidement sous-officiers, mais après, en tant que chef de moyen et vis-à-vis des autres personnes qu'ils étaient amenés à côtoyer, il y avait eu cette volonté également à la fois de reconnaître et un statut de équivalent à ingénieur ou en tout cas à des compétences pour mettre en adéquation, on va dire, des compétences et un grade. Donc cette volonté de faire passer tous les pilotes officiers, ce qui m'a valu finalement de commencer comme matelot, d'avoir quelques grades comme sous-officier et puis d'en cumuler d'autres encore comme officier.
Une progression de carrière fulgurante donc.
Alors voilà, qui était induite surtout par les changements, en tout cas mue et accélérée par les changements d'organisation même de l'institution. Mais ça reste quand même une singularité parce que voilà, aujourd'hui, je pense que je peux concurrencer beaucoup de personnes sur le nombre de grades que j'ai eu dans la marine.
Parce qu'aujourd'hui, tous les nouveaux arrivants, entre guillemets, commencent déjà officiers.
Enfin, voilà, c'est un recrutement qui s'attache à sélectionner des personnes avec directement un niveau officier et donc avec un niveau scolaire déjà un petit peu plus élevé et qui suit finalement l'évolution, la complexité des machines, des missions. Et voilà.
Bien, merci pour ces explications parce que c'est des choses dont on entend parler dans pas mal d'épisodes de l'expérience Shibane jusqu'ici. On n'a jamais décrypté le pourquoi, donc c'était l'occasion aujourd'hui. Tu as ensuite donc été affecté à Nîmes sur Atlantique 1. C'est le début d'une très belle aventure sur une machine mythique, comme tu le disais, dans la marine, dans la patrouille maritime. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période, tes débuts sur Atlantique, tes missions
Une fois de plus, l'aéronautique est faite de circonstances, et puis à chacun de s'en saisir, de les faire heureuses. Et quand je suis arrivé dans la patrouille maritime, c'était le début de l'Atlantique 2. Tout le monde aura compris que l'Atlantique 2 était sans doute bien mieux que l'Atlantique 1, c'était son successeur, bien plus moderne. Il avait pour vocation donc à remplacer cet Atlantique 1 dans les quelques années qui suivaient. Et puis finalement, je me suis retrouvé toujours par le biais des affectations, des choix, des personnes, de la même façon qu'il y avait une sélection pour être pilote de chasse que je n'avais pas rejoint. Là, finalement, je me retrouve sur Atlantique 1. Mais qui était finalement une opportunité pour moi, qui cet Atlantique 1 ayant pour vocation à continuer à faire toutes les missions extérieures, alors que l'Atlantique 2 était encore en maturation sur le sol national. C'était le bel objet qui était en train de rentrer dans les forces.
Il ne fallait pas le casser tout de suite.
Il y avait plein d'électronique, on ne voulait pas trop l'exposer à la poussière, aux opérations. Les concepts, peut-être, d'emploi n'étaient pas encore complètement matures non plus. En tout cas, il était en montée en puissance. Et le corollaire de ça, c'est que la TL1 récupérait toutes les missions outre-mer qui étaient le ferment de la passion du voyage, de tout ce qui animait. Donc je me suis retrouvé finalement très tôt et là je mettais un pied dans ce à quoi on pourrait comparer aujourd'hui, c'est l'aviation long courrier, avec les voyages transatlantiques, les voyages polaires. J'ai participé au dernier voyage polaire, puisqu'à l'époque, cet avion, pour le décrire un petit peu, avait pour vocation... Alors, en service public, à faire du secours, recherche en mer, maritime, évidemment, hauturier, après les hélicoptères, pour aller quand il y avait besoin de search and rescue au-delà, un petit peu plus loin.
Hauturier, pardon, j'ai pas compris.
Hauturier, c'est-à-dire quand on fait du secours en mer, le premier moyen qu'on envoie, c'est la SNSM, les bateaux. Et puis quand on a trouvé personne, on envoie l'hélicoptère qui va un petit peu plus loin, un petit peu plus vite. Et quand l'hélicoptère n'a trouvé personne, on envoie de l'Atlantique. Qui est capable d'aller chercher plus loin, plus longtemps, mais qui est un moyen lourd qui met en œuvre une chaîne beaucoup plus élaborée. Donc, il y avait cette gradation, enfin en tout cas il y a cette organisation, une gradation du secours en mer, des moyens disponibles pour les secours en mer. Voilà, donc après la mission de service public, donc secours, recherche en mer, police des pêches, surveillance des pollutions, une autre partie des missions de l'Atlantique était également le soutien de la flotte, puisque dans aéronaval, il y a également naval. Et donc, un porte-avions qui part à la mer, en général, fait en sorte d'être accompagné, et plutôt bien accompagné, et cherche à maîtriser à la fois ce qui se passe autour de lui dans les airs, mais également ce qui peut se passer sur la mer, devant et autour de lui, et également sous l'eau. Et l'Atlantique est ce moyen qui permet d'aller explorer devant lui en surface, mais également sous l'eau, puisqu'il a des moyens d'acoustique sous-marine, de détection des sous-marins. Donc ça faisait partie des missions. Et une autre partie, c'est un moyen qu'on peut poster sur des crises ponctuelles, et un moyen de renseignement, de commandement, de recueil en fait d'informations sur un théâtre à destination des décideurs et ou d'autres moyens qui seraient engagés. Donc c'est à ce titre-là où l'Atlantique était déployé de façon quasi permanente sur des théâtres principalement à Dakar, là pour l'aspect le volet secours en mer sur l'Atlantique Sud. Donc au profit de l'aviation civile. C'était une délégation du Sénégal auprès de la France, puisqu'en fait le Sénégal avait la responsabilité de la zone de secours et recherche en mer sur l'Atlantique Sud jusqu'à ce que le Brésil prenne le relais ensuite. L'Atlantique était également déployé à Djibouti, et donc là c'était plutôt un théâtre de géostratégique, dans un endroit... Moyen-Orient, à la frontière de l'Afrique, qui a toujours été mouvementée. Et ça faisait partie des endroits qui cristallisaient l'idée de l'aventure, hein, que ce soit Henri de Montfred à Djibouti, ses grandes aventures là-bas. Le fait de, ça a été ma première mission en patrouille maritime et un détachement à Djibouti. Et donc c'était déjà là, je mettais le pied dans l'aventure aéronautique, on part avec son avion et on va au loin et on décolle d'un terrain qui est loin, qui est outre-mer. Jusqu'à présent, ça ne s'était fait. Finalement, je revenais à mon terrain de départ. On partait d'un terrain qu'on connaissait hier, ou Nîmes, et puis on y revenait le soir. Là, c'était aller faire des opérations ailleurs.
Et justement, sur cet aspect-là, ça ressemble peut-être un peu plus à l'armée de l'air, parce que on a eu l'occasion d'avoir quelques pilotes embarqués sur l'expérience Shiban, et eux, ils suivaient le bateau, en fait, tout simplement, ils n'avaient pas vraiment le choix, sauf pour des entraînements ponctuels ou des choses comme ça. Toi, l'avion était basé donc en Bretagne, sur une base, laquelle d'ailleurs, l'Atlantique, ou alors à Nîmes plutôt.
À Nîmes, voilà. Nîmes, ouais, okay. L'avion était basé à Nîmes, mmh. Et régulièrement, alors 2-3 fois par an, il était projeté pour une durée de 45 à 50 jours, parfois ouais. Un petit peu plus, mmh. Sur un des théâtres. Alors,
en OPEX, un peu comme...
Voilà, ceux que j'évoquais qui faisaient partie du récurrent, Dakar, Djibouti, et après, en fonction des opérations, de l'actualité du moment. Et d'ailleurs, ça me rappelle à ce moment-là, sur cette première mission à l'étranger, donc, qui était basée à Djibouti, on venait à peine d'arriver, et qu'on nous a demandé d'aller nous mettre en place à La Réunion pour une opération sur les Comores, où un fameux nom qui a résonné en France dans les années 70, qui était M. Bob Denard, un fameux mercenaire, avait à nouveau fait parler de lui sur un coup d'État aux Comores, et donc pour laquelle la France, dont c'était la zone de responsabilité, avait décidé d'intervenir. Donc au-delà déjà du voyage, qui faisait que dans la nuit, il fallait préparer un transit pour partir de Djibouti, refouler aux Seychelles et aller se poser à La Réunion. Rien que La Réunion, c'était une île, enfin voilà... Ça, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de low cost et on ne voyageait pas si facilement que ça en avion. Donc le fait de pouvoir y aller rien qu'avec un avion dans lequel on était en équipage était déjà une jolie part de l'aventure. Et en plus, pour participer à une forme d'actualité, en tout cas de pied à pied dans l'aviation de mission, on avait quelque chose à y faire finalement, c'était... Ça faisait partie du rêve, en tout cas, je me l'étais imaginé comme ça, et finalement, je me retrouvais maintenant
dans des histoires qu'on voit au journal.
Dans des histoires, exactement, et ça, on pouvait ouvrir le journal, d'ailleurs, ça faisait partie des journaux qu'on a conservés le lendemain en rachetant Le Retour des Affreux. Les Affreux, c'était le surnom qu'il donnait aux mercenaires de Bob Denard.
Ok, ouais. Et donc, voilà, tu as fait quelques missions comme ça sur l'Atlantique 1, principalement en Afrique, si j'ai bien compris. Tu parlais aussi de traverser l'Atlantique. T'allais où quand tu traversais l'Atlantique? Dans les dom-toms, peut-être?
Alors, sur Atlantique 1, non, c'était... j'évoquais tout à l'heure les vols transocéaniques polaires, puisqu'un des enjeux et une des missions qui était confiée à Atlantique était la maîtrise du milieu sous-marin. Or, à cette époque, le mur de Berlin venait juste de tomber et subsistaient encore les restes de la guerre froide avec une opposition URSS, dénomination à l'époque, et leurs sous-marins en mer du Nord. Et s'il y avait dû y avoir conflit, une grande partie pouvait se jouer sous la calotte glaciaire au pôle Nord. Mmh. Et donc, il y avait un entraînement récurrent des armées à savoir naviguer proche des pôles, ou en tout cas sur les hautes latitudes. Mmh. Et donc, de la même façon qu'après avoir traversé l'océan Indien... ou avoir côtoyé l'Atlantique Sud au départ de Dakar, je m'étais retrouvé à faire la traversée de jusqu'au Canada, et du Canada on revenait par le Groenland en entraînement navigation haute latitude. Donc avec le souvenir à Keflavik où l'avion avait été, on avait fait escale là avec une grosse chute de neige, l'avion était gros, donc on n'avait pas des hangars pour tous ces avions, et donc la première partie du dégivrage s'effectuait avec un balai. Mmh. L'équipage montait sur les ailes. On avait la possibilité d'accéder sur les ailes à partir de la carlingue.
Okay.
Et à déneiger. Mmh. J'ai quelques photos de moi en doudoune en train de déneiger l'avion et à passer le balai sur l'aile de l'Atlantique.
Ça, il devait faire bon. Ouais. Et bon, traverser de l'Atlantique en Atlantique, c'est pas mal du coup. Là.
L'avion c'était un beau clin d'œil.
Avait l'air fait pour ça.
Ah, c'était un avion, oui, qui était vraiment, qui avait cette particularité, qui a été conservé pour Atlantique 2, à savoir que l'Atlantique 2, la cellule n'a pas changé. C'était une cellule qui a été construite, imaginée et construite par Dassault, constructeur, pour les besoins propres de la patrouille maritime, donc une forme de bilobe. En nid d'abeille et qui a été designé exclusivement pour cette vocation d'avion de surveillance maritime. Donc il avait un nez vitré, un peu comme les anciens bombardiers B-17 qu'on peut voir là dans les meetings, donc qui était occupé par un poste d'observateur. Il avait des hublots latéraux, donc une sorte de coupole, un peu comme quelqu'un qui voudrait faire de l'observation du ciel. Donc là, c'était des coupoles latérales, donc ces hublots qui sortaient vers l'extérieur, et donc quand on passait la tête dedans, on pouvait voir l'avant et l'arrière, donc ça dégageait des vues absolument... et qui servait notamment à la surveillance de la mer quand on était en secours, recherche en mer, où chacun avait une partie de la mer qui lui était attribuée et scrutait de façon méthodique en fait la surface de la mer. Cet avion, pour anecdote, était designé pour survoler la mer et donc pour flotter en cas de ditching.
Ah ouais.
À savoir qu'on avait un simulateur dans lequel était intégré de façon réaliste le ditching.
Okay.
Souvent dans nos simulateurs d'avions modernes, quand on se crache, ça devient tout rouge, il y a écrit ouais, bong, et puis en fait, c'est voilà, d'un point de vue de la voiture, game over. Alors que là, on allait et on apprenait à se poser sur l'eau,
ouais.
Ce qui visiblement était quelque chose d'utile, puisque pas dans l'aéronavale française, mais cet avion était également dans d'autres armées, notamment les Hollandais, qui en ont quand même ditché deux.
Okay.
Et je crois que c'est un des seuls avions pour lesquels il y a des photos. Sur lequel il est pris en remorquage. Donc l'avion s'est ditché, a survécu en termes d'intégrité physique à son ditching. Donc ditching, c'est imposé sur la mer, hein, et a été remorqué jusqu'à un port. Et on peut voir une photo de cet avion pris en remorquage, ce qui n'est quand même pas donné à tous les avions.
Ah oui, c'est ça, à part un A320 sur l'Hudson, il n'y a pas beaucoup d'images comme ça. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on creuse un petit peu plus sur l'avion en lui-même, l'Atlantique 1 et 2. Déjà, quelles étaient les différences entre l'Atlantique 1 et 2? Quel type d'équipement on pouvait mettre à bord? Il y avait quoi comme moteur dessus? Voilà, c'est un segment pour les un petit peu plus geeks d'entre nous, on va dire.
Alors, la cellule est restée quasiment la même, hein. On conserve toujours l'œil, on a réutilisé, elle avait été bien étudiée, et donc comme elle donnait satisfaction, on a conservé la cellule. Elles ont été, l'Atlantique 2 a bénéficié de cellules neuves, mais fabriquées sur le même schéma, à peu de choses près. Donc avec un avion qui était capable de faire... qui était multisenseur, en fait. À bord, il y avait, c'était une vraie ruche. c'est le cas de le dire, parce qu'il était la structure de construction, c'est du nid d'abeilles. Ouais. Et à l'intérieur, il y avait beaucoup de métiers. Et il y a toujours beaucoup de métiers, parce que cet avion vole toujours, il faut le savoir, avec d'autres modernisations. Il y avait, si on commence par l'avant, une équipe de conduite, machine. Et je dis vraiment une équipe, parce qu'il y avait donc pilote, copilote, quand on parlait du pilote et du chef de bord. Le chef de bord, de façon non conventionnelle, était assis à droite. Alors que vous verrez que dans tous les avions, c'est un avion commercial. Le commandant de bord, comme on l'appelle, est plutôt à gauche.
Et pourquoi d'ailleurs ? C'est comme ça.
La raison, il y avait... Pourquoi est-ce qu'effectivement on l'a mis à droite ? Là, je sais pas. Je sais.
Une convention.
Il y avait une convention qui est héritée, je crois. Je ne veux pas trop digresser, et, n'étant pas complètement sûr, mais de... Notamment des tours de piste. Alors il y a une histoire avec des histoires de sabres et de des premiers avions. Et quand on montait sur un cheval, on montait toujours d'un côté, du même côté. Bon, c'est un peu nébuleux, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est en tout cas une particularité dans nos avions, c'est le commandant de bord ou le chef de bord, tel qu'on l'appelait dans la marine, est à droite. Équipage de conduite, parce qu'il y avait les mécaniciens de bord qui avaient une part prépondérante. Et c'était des mécaniciens volants, comme à l'époque des anciennes machines pour le Concorde, ou qui avaient une part active dans la conduite de la machine. À savoir que le pilote, le cockpit était assez large, il n'avait pas accès à toutes les commandes, et donc le MECBO, comme on les appelait, les mécaniciens de bord, sortaient des volets. Enfin, en tout cas, il y avait une coordination, c'était un balai à faire fonctionner entre...
C'était un cockpit à trois, finalement.
Cockpit à trois, complètement.
Ouais, okay.
Et puis derrière, se déclinaient les métiers de navigateur, de radio, de coordinateur tactique, d'acousticien sous-marin, de perception de guerre électronique, de relevé de capacité d'observation avec des moyens autres que la vue. Donc on avait des moyens optiques de infrarouge, avec une boule optique. Ça, c'était l'amélioration qui avait été amenée pour l'Atlantique 2. Et sur les autres aspects d'amélioration de l'Atlantique 2 par rapport à l'Atlantique 1, c'est essentiellement une modernisation de tous les systèmes et tous les senseurs. Mais on va dire que les senseurs sont restés les mêmes dans leur capacité, enfin en tout cas dans leur but. L'Atlantique avait toujours besoin de voir autour de lui avec des yeux humains pour détecter des hommes à la mer, avait toujours besoin de voir loin avec des radaristes pour détecter ce qu'il y a sur la surface et éventuellement dans les airs. L'Atlantique a toujours besoin d'écouter les émissions électromagnétiques qu'il y a autour de lui pour savoir ce qui se passe, puisque ce sont des indicateurs d'une activité, qu'elle soit faible ou intense, et la nature des signaux électromagnétiques que l'on reçoit informe sur des activités qui se passent autour de nous. Il y avait toujours le besoin de savoir ce qui se passe sous l'eau, donc avec la capacité à larguer des bouées qui écoutent sous l'eau, de façon silencieuse ou de façon active, et toujours le besoin de coordonner cette ruche, donc avec un coordinateur tactique qui était le chef d'orchestre des senseurs, et qui, en collaboration avec le chef de bord, élaborait la stratégie pour les utiliser au mieux.
D'accord. Tu parlais de bouée qui était larguée. Alors, tu m'avais parlé d'un système un peu particulier qui fait que la bouée était larguée vraiment pile à la verticale du moment où vous avez décidé de la larguer. Elle était éjectée vers l'arrière. Comment ça se passait ?
Alors ça, c'est fumigène, parce que parmi les choses qu'on pouvait larguer, cet avion, qui est malgré tout un avion de combat, avait une soute, comme les vieux bombardiers, qui s'ouvraient et qui pouvaient donc effectivement larguer une chaîne SAR, donc ce qui est un canot de sauvetage, à l'attention de naufragés. On a pu en larguer dans les missions de secours en mer, notamment pour des navigateurs en voilier qui faisaient la transat et puis qui étaient en difficulté. On pouvait larguer également donc des torpilles, puisque le but du jeu était de détecter éventuellement toute menace pour un porte-avions ou une force à la mer. Donc c'est pas le tout de détecter, mais il faut avoir la capacité de défendre finalement. Donc un emport, une capacité d'emport torpille.
Ah non, c'était un avion armé où il larguait des torpilles et
également
un
Exocet, le fameux Exocet qui était ce missile surface air surface et donc il pouvait pour le coup là permettre d'atteindre une cible en surface.
D'accord.
Et il a même été il a eu sur Atlantique 2 reçu la capacité d'être bombardier entre guillemets, notamment pouvoir guider des bombes laser. Et enfin, larguer et guider des bombes laser. Donc, c'était un avion d'armes, ce qu'on appelait un avion de combat. Il était classé dans la catégorie des avions d'armes.
Mmh, d'accord. Je te propose maintenant qu'on revienne un petit peu sur la notion d'équipage, telle qu'on l'entend dans la marine sur Atlantique. Vous êtes une équipe d'une dizaine, petite quinzaine de membres d'équipage, comme tu le disais. Toujours la même qui est constituée pendant quelques années. Pourquoi cette façon de constituer l'équipage et comment ça se passe concrètement, le travail entre vous?
Donc ça, c'était, oui, effectivement, c'était une partie marquante de l'aventure atlantique. C'est qu'au-delà d'une aventure technologique telle qu'on vient de la décrire, en tout cas avec énormément de senseurs, et pour qui est un peu geek, peut y trouver son compte, il y avait aussi une aventure humaine. Parce que cette fameuse ruche était constituée d'un essaim, et cet essaim avait une vie... qui s'inscrivait sur des cycles de 3-4 ans. Et alors, si on prend ce cycle au début de l'histoire, on va dire qu'elle va commencer en école. Il y avait une structure qui était créée pour accueillir un équipage qui allait suivre un cycle de formation pendant un an. Cet équipage était constitué de personnes qui découvraient pour la première fois peut-être le métier avec... Si on prend l'exemple d'un navigateur, par exemple, on avait le premier, le deuxième et le troisième navigateur. Le troisième navigateur étant le dernier arrivé, qui sortait d'école et qui, pour apprendre le métier opérationnel, le métier de mission, intégrait un équipage en école. Et le deuxième navigateur, par exemple, pouvait être issu d'un équipage qui, pour lequel lui avait déjà fait son école il y a quelques années, avait déjà suivi un cycle en opération et revenait... pour aider à structurer. Donc à l'intérieur d'un équipage en école, il faut savoir qu'il n'y a pas que des élèves. Il y a des personnes d'expérience, des compagnons, un peu ouvriers, qui vont aider les autres à acquérir des compétences. Donc pendant un an, toutes ces personnes apprennent à travailler ensemble, avec quand même la particularité d'être 13, 14 à bord, d'avoir la possibilité de s'exprimer simultanément sur une boucle radio. Mmh. Donc ça nécessite déjà l'apprentissage d'une forme de discipline. Comment est-ce qu'on fait pour parler à 13 en même temps?
Vous êtes tous sur le même intercom finalement.
Exactement. Et quand il commence à se passer quelque chose et que tout le monde a envie de communiquer parce que tous les senseurs, d'un seul coup, passent au rouge. Donc il y a cet apprentissage à faire.
Ouais.
Cet apprentissage des réactions, d'un langage, parce qu'on comprend bien que pour faire fonctionner 13 personnes avec chacun des métiers différents, il faut mettre en place finalement une grammaire, un langage, un vocabulaire pour pouvoir se comprendre. Et puis au-delà de ça, il y a des hommes et des femmes qui doivent vivre ensemble, apprendre à se connaître. Mmh. Et donc, voilà, au bout de ce parcours d'un an en école, où on répète les gammes, différents types d'exercices, on essaie de voir un petit peu tout ce qui peut se présenter comme situation opérationnelle. En fait, ce sont des briques de compétences qui sont petit à petit assemblées et qui permettent, à la fin de l'année, après avoir passé une forme d'examen, est livré à une flottille qui est chargée d'employer cet équipage. Et donc cet équipage est constitué, il a un nom, constitué de deux lettres.
Mmh. Okay.
La première lettre étant représentative de la flottille à laquelle il est affecté, et la deuxième étant le rang d'arrivée. Et donc il y a autour de cette appellation une forme de fierté. En tout cas, il y a une identité qui se crée autour de cette appellation. C'est un peu comme le Memphis Belle.
Tu te souviens du nom de tes groupes?
Ah oui, il y a un Victor Echo, un Uniforme Juliette.
Ok, ça marque, j'imagine.
Ça marque, effectivement. Puis, voilà, ça, c'est une marque forte de façon qu'on retrouve. Et donc cet équipage est livré très standardisé à la flottille, qui sait qu'elle elle détient, on va l'appeler comme ça, un produit. C'est pas très beau parce qu'en fait, c'est plus qu'un produit. Y a une entité, ce que je disais, une entité humaine autour de ça, technique et humaine. Et souvent, la première année en flottille est une année où on répète nos gammes, une année très scolaire avec une phraséologie très académique. Puis la deuxième année, finalement, est l'année de, on commence à avoir de l'expérience et puis on connaît toutes les voies à l'intérieur de ce fameux téléphone de bord. Donc peut-être la grammaire peut commencer à se muer en une forme de avec quelques raccourcis et puis qui va se prolonger parce que c'est complètement humain. À partir du moment où les gens se connaissent, de mettre en place une forme de métalangage, comme l'argot raccourci, la grammaire française, finalement se crée dans un équipage la possibilité de faire mieux, plus vite, parce qu'on se connaît. Et comme à l'image d'une équipe sportive, qui, parce qu'elle se connaît, arrive à mettre en place des automatismes qui la rend meilleure que l'équipe d'à côté, alors que tout le monde fait les mêmes entraînements, les mêmes gammes au départ. Et arrive là, cette fameuse troisième année où c'est l'année de la plénitude, l'équipage est bon, il est rodé, mais il devient un produit qui échappe au standard. Et donc, il est l'heure de dissoudre cet équipage. Et de recommencer, parce que finalement, si quelqu'un tombait malade, on aurait du mal à le remplacer dans l'équipe.
Ouais. Un nouvel arrivant, il ne va rien comprendre finalement.
Et finalement, il devient, alors je grossis le trait, mais c'est un peu l'esprit qui perdure. Donc au bout de 3 ans, des personnes ont acquis des nouvelles compétences et vont pouvoir prétendre à un grade supérieur, à une fonction supérieure. Donc retourner en école pour cette fois-ci l'acquérir ou au contraire, au même poste, aller aider un plus jeune. Donc on dissout cet équipage et on le ventile. Pour une partie retournera en école, pour une partie retournera comme instructeur éventuellement en école.
Et oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'en fait il y a des alternances entre les phases où tu es élève, instructeur, opérationnel, testeur, testé, etc.
En permanence, qui obligeait à une forme d'humilité. Ouais. on pouvait toujours être certain que après avoir eu un poste, finalement, où on faisait passer une compétence. Là, la marine a toujours sanctuarisé que la fonction primait le grade. Et que, finalement, c'était la compétence technique humaine qui était attribuée. Donc, ça peut être, pour l'exemple, chef de bord. Le chef de bord est une compétence qui est reconnue au-delà du grade que porte le chef de bord. Et donc, ça rejoint ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le fait qui a nécessité de passer les pilotes officiers, parce que cette fonction...
Il y avait une contradiction, finalement.
Il y avait une contradiction. Pour anecdote, jeune pilote et jeune commandant de bord, tout jeune commandant de bord sur ce fameux PA-31, j'étais, on va dire, l'équivalent de sergent, ça s'appelle second maître dans la marine. Et avec comme copilote le commandant en seconde de l'escadrille, qui était capitaine et qui prenait un malin plaisir à faire en sorte qu'on respecte bien cette doctrine de la fonction prime le grade. Et donc quand l'amiral qu'on devait transporter s'approchait et voyait quelqu'un, un officier, donc il se dirigeait vers lui pour avoir des renseignements éventuellement sur son vol, et avec un malin plaisir, le capitaine indiquait à l'amiral qu'il fallait qu'il s'adresse au sergent, que c'était lui le chef.
Voilà le commandant de bord.
Voilà le commandant de bord.
Alors, tu as aussi eu l'occasion d'avoir des affectations en Outre-mer, alors si j'ai bien compris, à Nouméa, à Tahiti, aux Antilles. C'est une opportunité incroyable qu'offre la marine finalement de pouvoir aller vivre un petit peu à l'autre bout du monde. C'était une expérience positive pour toi ?
C'est souvent une affectation qui arrive après plusieurs cycles opérationnels. Donc on parlait de l'Atlantique 1, de l'Atlantique 2, qui est une période exigeante, parce que inscrite dans les opérations, inscrite dans le secours en mer, qui est exigeante en termes de rythme de vie, avec des détachements permanents. Donc ça, on peut dire un petit mot aussi des familles qui vivent avec nous pendant ces périodes où on apprend à pas beaucoup programmer, ou en tout cas programmer au dernier moment, et on apprend à finalement accepter que ce qu'on avait programmé ne se réalise pas, parce que le nombre de dîners organisés, puis finalement le bip pour le secours en mer sonne, le nombre d'événements de la vie finalement se retrouve à la fois mêlé avec les événements. Je peux juste une anecdote pour illustrer ça, qui était la C'était juste avant de finir, finalement, finir mon cycle opérationnel en patrouille maritime sur Atlantique 2. Et j'étais à Dakar et ma femme était enceinte. Et c'était le dernier jour du détachement et on devait décoller à midi. Et à 12h, elle m'a appelé pour me dire qu'elle partait à la maternité. Je suis pas d'un naturel très stressé habituellement, mais j'ai découvert ce que c'était que faire des allers-retours en n'ayant plus de nouvelles. C'était pour mon premier. Et finalement, tout l'équipage était prêt à décoller beaucoup plus tôt. On a refait les calculs 20 fois pour savoir si on pouvait décoller avant minuit, parce que minuit était l'heure à laquelle il commençait à faire un petit peu frais. Et cet Atlantique 2, avec son Tyne à l'eau méthanol, est une technologie qui permettait de décoller ou de rétablir la puissance quand il faisait chaud. Mais le décollage de Dakar, malgré tout, à cette saison, faisait en sorte qu'il a effectivement fallu attendre minuit pour pouvoir décoller. Ouais. Et donc j'ai décollé à minuit sans savoir si j'étais papa ou pas pour la première fois. En demandant à chaque fois au contrôle à couper dans les coins. Et puis finalement, après 8 heures de vol, arrivé à Nîmes en longue finale. Et donc j'ai à la radio le PC de la flottille qui, visiblement, je ne sais pas comment, était informé que je n'étais toujours pas papa, mais que c'était sur le point de l'être. Ouais. Et donc ils me disent « Allez, accélère ». Je me suis posé, les hélices tournaient encore, j'étais en combinaison de vol. Il y a une voiture qui m'attendait au pied de l'avion qui m'a amené jusqu'à l'hôpital. Et finalement, je suis rentré dans la salle d'accouchement et 8 minutes après, j'avais... mon fiston dans les mains.
Timing parfait.
Timing parfait.
Ouais.
Donc, ça, ouais, pardon.
Non, je disais, c'est sympa d'avoir toute l'équipe derrière qui pousse pour que ça marche, quoi.
Ah, ça reste un moment fort parce que cette équipe, chaque fois qu'on relate, évidemment, c'est un événement marquant qui est un souvenir qu'on partage avec ces personnes. Et on a plaisir à le réévoquer à chaque fois.
Donc là, c'est la fin de ton aventure sur Atlantique, pas exactement, mais tu as quand même fait du Falcon 200 à Fort-de-France, un petit peu aussi dans le Pacifique. Nouvel avion, nouvelle mission peut-être.
C'est ça. Donc à la fin de ces fameux cycles opérationnels, il y avait un petit peu la récompense, pouvoir aller souffler, même si c'était toujours pour faire du secours et de la recherche en mer, donc en termes de rythme. Mais au moins, il y avait l'aspect outre-mer. Et qui était effectivement très séduisant puisque les trois destinations étaient soit Fort-de-France, soit Tahiti, soit Nouméa. Et donc pour ma part, il y avait à ce moment-là en attente du Falcon 50 qui était un nouvel appareil qui devait rejoindre les forces dans la marine. Il avait été décidé de mettre en place ce Falcon 200 Guardian, donc c'est sur la base d'un Falcon 20. Aux Antilles pour participer aux missions narcotrafic et puis secours, recherche en mer en complément dans cette partie. Donc cet avion était arrivé du Pacifique, détaché de l'escadrille du Pacifique et toujours sous sa tutelle, mais détaché à Fort-de-France. Et donc j'ai eu l'occasion d'y passer une année. À la fin de cette année, le Falcon 50 prenant le relais, finalement, Falcon 20, ce gardien, est retourné auprès de son escadrille mère à Nouméa. Et donc j'ai suivi l'avion pour 2 ans supplémentaires. Une nouvelle opportunité qui normalement, ses affectations étaient de 2 ans, parce que l'idée était quand même de laisser la place pour tout le monde. C'était l'occasion de faire du jet, c'était pas donné à tout le monde. Et dans un environnement, effectivement, outre-mer, qui était quand même une belle récompense pour les personnes qui pouvaient y accéder.
Et donc tu as fait un petit peu de jet, comme tu viens de le dire, pendant 3 ans, c'est ça? Et ensuite, tu as refait un petit peu d'instruction sur Atlantique avant d'entamer ta reconversion, on va dire, dans le civil. Je te propose qu'on passe maintenant à cette deuxième partie de ta carrière, pilote d'avion météo. Comment ça s'est passé pour toi, la transition entre la vie militaire et la vie civile, même si ça restait, comme tu me le disais, quand même de l'aviation de mission, finalement. Je voudrais savoir aussi comment cette opportunité s'est concrétisée chez Saphir. J'imagine que les places sont chères.
Effectivement, alors je n'avais aucune idée de l'existence de Saphir quand est arrivée la fin de ma carrière militaire. Juste pour préciser, c'est je faisais partie donc d'un statut pour les personnes qui s'engagent directement sans passer par le cursus des grandes écoles, l'école de l'air ou l'école navale pour rejoindre à l'époque le statut directement d'officier de carrière. Donc les autres pilotes sont des pilotes sous contrat et qui ont pour vocation à rester entre 15 et une vingtaine d'années. Alors pour ma part, j'y suis resté un petit peu plus longtemps, toujours sur au gré des opportunités qui se présentaient, puisque finalement je suis resté 23 ans dans la marine, avec, comme tu disais, donc un retour après comme instructeur. Et je finis ma carrière comme instructeur et également comme participant à la rénovation avionique de l'Atlantique 2. Donc ce qui m'a permis, et qui me servira, mais d'acquérir, ou en tout cas de côtoyer d'autres cercles de compétences aéronautiques, en côtoyant les essais en vol et une avionique plus moderne. Et également, en tant qu'instructeur, une partie un peu plus aéronautique civile, puisque j'étais dans un ATO, je travaillais au sein de l'ATO, donc ça m'a permis finalement de convertir mes licences militaires en licence EASA, une licence civile, et donc me rendre éligible à une aviation civile, ce qui n'était pas le cas des personnes avant. Et en tout cas, aujourd'hui, tous les pilotes passent des licences civiles et EASA, donc qui sont estampillées. Mais avant, c'était vraiment des licences. Moi, j'étais encore avec des licences militaires qui n'étaient pas reconnues. On pouvait éventuellement faire du remorquage de banderoles sur la plage, mais il fallait. Donc, j'ai dû repasser toutes ces licences et examens théoriques pour pouvoir postuler après à une deuxième partie de carrière. Et donc c'est là, ayant cette expérience sur Falcon 20, je vois passer, alors que j'étais à quelques mois de mon départ de la marine, je vois passer une annonce qui recherchait finalement un pilote pouvant faire des missions pilote de mission. Le but était clairement, enfin là en tout cas l'annonce exprimait le souhait d'avoir la capacité à préparer, élaborer soi-même ses missions avec de l'autonomie. Clairement, c'était pas pour une compagnie aérienne avec la même structure. Ça insistait beaucoup sur le fait que c'était une petite structure et pour lequel la polyvalence était vraiment nécessaire. Mais surtout le point d'entrée était d'avoir une qualification technique sur un Falcon 20 GF qui se trouve être le prototype de la série des Falcon 20 sur lequel je venais de passer 3 ans. Et donc ça restreignait beaucoup la capacité des gens à répondre à cet appel d'offres, parce que c'est surtout ce qui en faisait la particularité, c'était ces moteurs ATF3 qui sont des moteurs très spécifiques et qui ont été produits en très petite quantité. Il y en a, je crois, moins de 80 sur Terre. Donc c'était vraiment une toute petite niche. Et finalement, quand on s'est retrouvé pour l'entretien, je me suis retrouvé sur le banc avec 4 ou 5 autres collègues qui avaient exactement le même cursus que moi. Ouais. Donc on s'est tous regardés, on s'est salués, on était contents de se retrouver là. Et finalement, on postulait. Ça a été un cauchemar pour la personne qui était chargée de faire le tri des CV, parce qu'on avait tous...
Il y avait 5 clones. Ouais,
c'était la guerre des clones. Ouais. Il fallait trouver donc ce qui a peut-être emporté un petit peu. Il y a la composante, ma dernière affectation qui me mettait en relation avec une des personnes du CEV. Et donc s'apparentait un petit peu à ce que pouvait proposer Saphir. A sans doute emporté la décision donc de la personne qui m'a recruté. Donc me voilà, après avoir scruté la mer de mon avion, à scruter le ciel et ce qu'il y a au-dessus et toute la colonne d'air, après avoir beaucoup échantillonné la colonne de mer.
Tout ça avec une équipe d'hyper spécialistes derrière sur des appareils pointus. Enfin, au final, c'est un cadre qui était presque le même finalement, juste pas dans la même structure, non ?
Il y a beaucoup de similitudes. Ouais. Le Saphir est donc, comme tu le disais, service des avions français, instrumenté pour la recherche en environnement. Ça peut paraître un peu barbare. C'est l'agrégation de trois tutelles, donc le CNRS, qui était propriétaire de cet avion, qui a motivé mon recrutement, donc ce Falcon 20, Météo France et le CNES. Météo France, elle, avait une expérience de l'aviation aéronautique par le biais du CAM, qui était le centre de l'aviation météo, donc qui historiquement a participé aux recherches météorologiques, très très typées météorologiques. Le CNES avait un intérêt et a toujours un intérêt à participer à cette structure pour les missions satellites, parce qu'en fait, pour valider un satellite, une charge satellite, il est intéressant d'embarquer à bord d'avions pour faire une prévalidation en fait des produits. Okay. Et le CNRS avait une histoire en tout cas un historique de recherche aéroportée. Avec comme opérateur l'IGN. Mmh. Donc elle embarquait, ou en tout cas elle faisait de la recherche avec l'IGN, qui a été le premier exploitant en fait de cet avion, ce Falcon 20, et qui a arrêté son exploitation au moment du changement de l'organisation et des normes d'opération, et finalement on a confié l'exploitation à Saphir. Et donc il a rejoint les rangs de Saphir aux alentours de 2008. Et Saphir, ayant à ce moment-là des pilotes d'ATR et de PA-23, on parlera de cet avion, cherchait à renforcer donc son équipe avec des personnes qui avaient une expérience sur ce fameux jet.
Et il y a donc trois avions, enfin il y avait jusqu'à il y a peu, trois avions chez Saphir, PA-23, TR-42 et Falcon 20. Tu t'es qualifié sur les trois, tu voles sur les trois en même temps, tu volais jusqu'à ce que le Falcon 20 entre au musée, tu pourras nous en parler aussi.
Oui, c'est ça, donc c'est le clin d'œil de l'histoire qui finalement, 23 ans plus tard, après avoir commencé ma carrière dans la marine sur PA-31, Nord 6-2 et Falcon 10, me voit à nouveau arriver dans une structure où piston, turbine, réacteur à disposition, et là à nouveau qualifié sur les trois appareils. La différence, c'est que là, pour le coup, nous ne sommes plus que trois pilotes. Mmh. Et donc, comme tu le disais, vraiment une aviation de niche et une équipe effectivement assez réduite. Pour essayer de décrire, toujours une aviation de mission qui débute avec des équipes de bureaux d'études et qui permettent finalement d'aller chercher du matériel de laboratoire qui fonctionne sur Terre, dans des labos, dans des universités, dans des unités de recherche, dans des bureaux d'études, avec des personnes qui vont définir des contraintes, enfin la capacité mécanique, électrique, électromagnétique à être intégrée à bord de l'avion. Une équipe chez nous qui va faire en sorte de pouvoir l'avionner, parce qu'il faut l'amener après dans l'avion, faire les branchements. Une équipe qui va en extraire les données, puisque ce n'est pas le tout de le faire fonctionner. L'idée, c'est quand même bien d'avoir de la data à la fin. Et une petite équipe opération qui est chargée de faire voler les avions, mais surtout, et qui reboucle avec le scientifique. Tout ça se fait évidemment, il y a une phase d'étude préliminaire, où l'idée étant de comprendre le besoin initial de l'expérimentation, de la recherche, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut comme data, et dans un échange avec les opérateurs de l'instrument, les directeurs scientifiques, ce qu'on appelle PI, l'investigator, qui est le scientifique responsable de la manip, donc a des idées, sans doute tout le temps très précise du type de data qu'il aimerait récupérer, mais qu'il va falloir confronter à la réalité de la vie qui nous entoure, et des contraintes à la fois de son matériel, des contraintes de l'avion, des contraintes de l'environnement dans lequel on veut le faire.
Et ton rôle de pilote dans l'organisation, c'est de parler un petit peu à tous ces gens-là, de les remettre face à la réalité, ce qui est faisable ou pas. Tu as beaucoup de temps de bureau, j'imagine, par rapport au temps même passé en vol, ou en réunion, ou des choses comme ça.
Alors au bilan, oui, effectivement. On passe, pour essayer de caractériser notre activité aéronautique, elle doit reposer sur à peu près 200 heures de vol par an, ce qui, au regard d'une activité commerciale, de pilote commercial, est plutôt faible. Et donc elle est précédée effectivement d'un travail dans le sens de ce dont on venait d'évoquer, à savoir déjà de compréhension du besoin scientifique pour élaborer les trajectoires, les meilleures trajectoires finalement qui de l'avion qui seront susceptibles de recueillir l'information souhaitée. Et puis une fois qu'on a déclaré la trajectoire idéale, on a élaboré la trajectoire idéale, il faut aller la confronter avec la réalité d'un environnement qui peut être dès le départ simplement diplomatique selon les pays dans lesquels on veut, puisque la recherche n'est pas, on imagine, ou en tout cas ça a été par le passé, la recherche, au nom de la recherche, ouvrait les portes et les frontières de tous. Le monde aujourd'hui est un peu plus fermé et la recherche n'est pas un droit des nations qui disposent d'outils de recherche à aller faire de la recherche chez n'importe qui. Donc aujourd'hui, elle se décline sous forme d'échanges. Et par exemple, j'ai en mémoire une mission en Namibie où le gouvernement namibien souhaitait, avant d'autoriser, simplement d'avoir l'autorisation de s'y rendre et de faire de la science, avant même tout aspect technique, on était purement sur un aspect diplomatique général, souhaiter des échanges scientifiques pour donner l'autorisation de venir. Donc ça se concrétisait par la possibilité d'avoir des étudiants namibiens qui participent à la recherche, qui soient intégrés comme post-doc, qui puissent éventuellement que nous, on partage notre savoir également. Donc c'est quand même, c'est vertueux et ça nous paraît normal, mais ça nous a pris quand même 2 ans.
Mmh. Ça prend du temps.
Ouais. Ça peut prendre du temps. Donc ouais. Là, c'est un cas extrême. Mais voilà, là, c'est une mission de pendant 2 ans. On l'avait prévu en général. On est sur des boucles plutôt à l'année. Mais là, il s'est trouvé qu'en arrivant, on était déjà, enfin, au bout d'une année, on n'avait pas encore abouti. On n'avait pas encore réussi, ne serait-ce qu'à passer le premier écueil de l'agrément diplomatique. Mmh. Puis derrière viennent les agréments techniques. Mmh. Donc là, il faut aller rencontrer les contrôleurs aériens et voir comment, en fonction de leur capacité, est-ce qu'il y a une surveillance radar, est-ce qu'il y a une surveillance ADS-B. Enfin, on rentre dans la technique et puis discuter avec eux pour mettre en place des protocoles, parce que la particularité de ces vols scientifiques sont qu'ils ne se déclinent que très rarement sous la forme d'un décollage d'un point A pour aller à un point B. C'est au milieu de ces trafics commerciaux qui vont d'un point A vers un point B en transportant des passagers, vient jouer le perturbateur, l'avion scientifique qui souhaite faire des montées, des descentes, des spirales, en tout cas jouer un peu à l'abeille folle autour de tout ça, butiner un peu dans tous les sens et souvent, c'est perturbant.
Mmh. Et donc, en tant que pilote, tu es impliqué dans chacune de ces étapes-là, finalement. Ça fait partie de ton travail de contribuer à l'organisation de la mission du début à la fin, finalement.
Complètement. Ça fait partie de... En tout cas, il y a une part d'apprentissage et une nécessité de compréhension des différents métiers que compose l'aéronautique. C'est que, aussi bien des contrôleurs, comment est-ce que... Parce que finalement... Personne, par nature, va vous dire « Écoutez, votre truc, là, ça m'embête. » Non, chaque fois qu'on se retrouve confronté à une difficulté, souvent, elle naît d'une contrainte qui est bien réelle. Mmh. Les gens n'ont pas pour habitude d'embêter les autres de façon spontanée. Mmh. En tout cas, c'est plutôt rare, il y a toujours. Mmh. On a tous connu peut-être des gens grincheux, mais c'est évidemment pas ça la majorité. Donc oui, ça nécessite, et à chaque fois c'est sans doute un petit peu nouveau, de comprendre et d'aller discuter et d'apprendre ce qui fait en fait la richesse et l'intérêt de ce métier. Ce qui finalement me permet aussi d'accepter que je ne vole que 200 heures.
Parce que tu fais plein d'autres choses en fait.
On est bien quand même le cul dans un avion. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on a voulu y rentrer.
Je te propose qu'on parle maintenant un petit peu des avions qui sont assez lourdement modifiés, qui sont régulièrement modifiés, même en fonction des manips qu'on veut faire avec. Comment ça se passe d'un point de vue technique et réglementaire? Qu'est-ce que ça change en tant que pilote de voler sur un avion modifié?
Alors, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Donc, cette aviation de recherche passe par l'intégration de laboratoires au sol à l'intérieur des avions. Et donc, un bureau d'études On dispose chez Saphir d'un bureau d'études avec une approbation des autorités donc de l'EASA pour certifier une configuration de l'avion. Donc on n'a évidemment pas toute latitude sur l'ensemble de l'avion, tout ce qui est constitutif de l'avion lui-même, donc à savoir ses moteurs, ses moyens de navigation, sa structure, dès que c'est un peu lourd, ça relève évidemment des constructeurs et puis de l'autorité de certification. Mais à l'intérieur de cet avion, on a un espace pour lequel on a reçu une délégation d'organisation et de certification. En tout cas, on propose une certification qui est revue par la DGAC, qui est notre tutelle, et qui dit, OK, vos calculs ou la façon dont vous avez certifié et vous avez déclaré que la configuration de votre laboratoire volant était saine, nous convient, donc vous pouvez voler comme si. Donc ça, c'est notre bureau d'études qui s'en occupe, et qui évidemment... Tu imagines bien que ça passe par des phases préalables de discussion, déjà de sa part, auprès de personnes de laboratoire qui n'ont pas forcément une connaissance des contraintes aéronautiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sur des démonstrateurs, actuellement, il y a beaucoup de projets qui tournent autour de la surveillance de la Terre, et notamment des gaz à effet de serre. Et donc, on a pas mal de missions qui sont arrivées par... des démonstrateurs, en tout cas de mise en œuvre de démonstrateurs, ou en tout cas de matériel ou de détecteurs prototypes sur la façon dont on va pouvoir observer les concentrations en CO2 ou en méthane. Donc ces matériels n'ont jamais volé, évidemment, puisqu'ils sont prototypes. Et donc là, il y a ce premier aspect de déterminer si ce qu'on met dans notre avion ne représente aucun danger, si on peut le faire de façon... En répondant à l'art, aux normes de l'art aéronautique, à savoir surtout c'est l'aspect sécurité qui est primordial. Ça représente la première partie du projet qui est très, très en aval. Et puis vient ensuite la partie, il faut monter ça à bord d'un avion. Et donc c'est pas que du meuble IKEA, tout n'est pas prévu. Hein, donc c'est à nous de... À nous d'imaginer, de concevoir, de construire les interfaces mécaniques, électriques. Donc on a des compétences en interne à Saphir pour faire du câblage aéronautique.
C'est un énorme travail, en fait.
Ce qui explique finalement il n'y ait que 200 heures de vol.
Ouais.
Et après, c'est également une configuration informatique qu'il faut créer et écrire. Donc il y a du code, il y a de la métallurgie, il y a de l'électricité, il y a de l'ingénierie aéronautique, il y a des aspects sécurité, certification, et puis exploitation, in fine, notre petite équipe où on est une compagnie aérienne, parce que malgré tout, ça boit au nom de la science, ça reste de l'aéronautique, donc avec ses contraintes de respect des normes de sécurité, et au nom de la science, on ne sacrifie rien à la sécurité. Et quand je t'en ai parlé... des avions dans les orages, effectivement, on peut se dire, mais qui sont... Alors, on a eu, effectivement, des missions où la thématique était chasseurs d'orages, chasseurs d'éclairs. Et donc, on peut se poser la question... Est-ce qu'on va vraiment dedans? Mais finalement, au nom de la météo, finalement, de quoi... On s'affranchit d'une certaine forme de sécurité pour la recherche. Non, en fait, pas du tout. Cette mission chasseur d'orage qui avait eu un petit écho médiatique parce qu'elle se passait en Corse. Effectivement, l'orage, l'éclair représente quand même, matérialise de façon concrète un danger qu'on peut côtoyer, ou en tout cas qui est visible et qui nous a été donné à voir assez souvent. Donc pour illustrer la façon dont on procède, c'est par rapport typiquement à un avion de ligne où les personnes qui embarquent n'ont pas payé pour se faire secouer. Elles veulent un voyage agréable avec des pilotes compétents qui leur assurent de décoller à l'heure et de se poser à l'heure, et en ayant pu voyager dans des conditions, y compris pour les personnes qui sont un peu sensibles à l'aéronautique, donc dans des conditions de stabilité et de confort. Pour ce qui nous concerne, à partir du moment où on accepte cette mission, parce qu'il nous semble que les minimums de sécurité sont garantie, ouais. Oui, tout à fait. Mmh. On accepte, malgré tout, d'aller se faire secouer un petit peu plus. Donc là où l'avion de ligne va faire un détour prudent pour ne pas être dans les turbulences, nous déjà, on accepte de faire une ligne droite dans quelque chose d'un peu plus rugueux en termes de turbulences.
Tout le monde est bas avec son café derrière, en train de lire le journal. Quoi.
C'est... Donc avec une cabine sécurisée. Et puis, il se trouve que, comme on vient de le décrire, cet avion a été instrumenté. Donc on a à bord... Et typiquement, on avait à bord, par exemple, on avait instrumenté sur la peau de l'avion des moulins à champ. Donc, on était capable de, d'évaluer l'intensité du champ électrostatique à l'approche des nuages. Et donc, ce qui qualifierait la capacité à déclencher un éclair. Hein, donc, cette charge électrostatique à l'intérieur du nuage. Alors, j'avoue que c'était, au fur et à mesure qu'on entendait les valeurs qui montaient, ça pouvait créer effectivement une certaine concentration, on va dire, à minima.
Ouais. Bon, quand est-ce que ça va taper?
Exactement. Et par ailleurs, on avait également, ces avions sont instrumentés avec des sondes sous les ailes qui sont capables de mesurer la granulométrie des nuages et des particules qui nous entourent. Est-ce que c'est de la glace? Est-ce que c'est de l'eau liquide? Est-ce que c'est de l'eau en surfusion? Également avec de la télédétection qui est capable de dire quelle est la nature de la turbulence, qui ont une capacité à pointer un petit peu légèrement avant sur l'avion. Donc, est-ce qu'on va se retrouver dans des très forts courants descendants, ascendants dans peu de temps? Et puis, on a également une petite liaison satellite, un système de mission à bord par liaison satellite qui nous permet de remonter une situation orageuse. Enfin, d'avoir en tout cas une évaluation de la situation orageuse autour de l'avion, bien à 360, alors que le radar météo d'un avion classique ne permet de voir que sous 60 degrés de vent, hein, de part et d'autre. Donc on a une vue beaucoup plus globale, rafraîchie, on a une appréciation plus fine de notre environnement, et on a les commentaires au sol d'une station au sol qui veille sur nous et qui nous informe de l'évolution. Et donc, en vertu de tout ce dispositif, en fait, avec beaucoup de personnes, ça nous permet de nous rapprocher beaucoup plus du cœur de l'orage. Et d'où cette appellation au cœur des orages. Alors, le cœur, voilà, on va laisser ça au satellite pour voir vraiment ce qui se passe dans le rouge du radar. Ouais. On s'est contenté de côtoyer le jaune.
Ok. Alors donc ça, c'était dans le cadre d'une mission de recherche, donc. Mais comme tu me le disais, tu participes aussi à des missions de service public qui sont commandées par potentiellement l'État, notamment quand il y avait eu l'éruption du volcan islandais Eyjafjall.
Ouais, alors, on va pas faire offense aux Islandais. Oui, ouais. Oui, je me souviens, c'était effectivement... on peut être aussi amené à répondre à des besoins... ou en tout cas une appréciation sur l'environnement. Hein. Et là, pour l'occasion, l'anecdote était que, si tout le monde s'en souvient, là, après cette éruption, l'espace européen était fermé et la fermeture s'étendait de plus en plus. C'était basé sur un modèle d'expansion de la présence des cendres qui était drivé par la météo anglaise qui était chargée de ce modèle. Et comme dans nos régions, finalement, c'était quand même assez une nouveauté, jamais s'était posé la question de ce qu'il y avait à l'intérieur du modèle. C'était un modèle prédictif de développement et d'expansion, mais qui n'était absolument pas qualitatif. Et donc, dans un premier temps, l'espace aérien était fermé au fur et à mesure que l'expansion... de cette zone polluée progresser. Et puis, comme ça durait et que le blackout aéronautique se prolongeait rapidement, se sont posés la question de la nature de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de cette zone polluée. Avec des voix qui disaient, mais finalement, quand on vole en Afrique, dans le Sahara, il y a des vents de sable avec de la silice, on n'arrête pas les avions pour autant, donc est-ce qu'on pourrait pas réouvrir l'espace aérien? Et donc, cette question, pour y répondre, il fallait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, et on a été sollicité par les autorités françaises pour aller explorer cette zone. Alors, L'anecdote étant que j'étais à ce moment-là, moi, en Espagne, et que le nuage était en train de descendre, et que les terrains se fermaient, et que finalement, on m'appelle en me disant, ben vite, finalement, ce week-end, là, on est en train, on monte un leader, on monte un instrument scientifique en crash programme sur le Falcon, on instrumente également la Terre, reviens vite. Donc j'ai réussi à prendre un avion, un des derniers avions, retour sur Toulouse, puis finalement un bus, puis finalement me faire récupérer à la frontière par ma femme à la frontière franco-espagnole pour terminer en voiture et décoller le lendemain matin avec une patrouille, on peut dire comme ça, un combiné Falcon et ATR-42. Le Falcon avec pour vocation, puisqu'il avait un instrument un LIDAR, donc il y a un laser qui tire vers le bas et qui permet d'apprécier la présence ou non d'une granulométrie dans l'atmosphère. Donc finalement, on avait pour vocation à aller confirmer ou infirmer, ou en tout cas s'assurer que la frontière définie par le modèle des Anglais avait une réalité déjà physique. Mmh. Et donc ce qu'on a pu constater, donc le Falcon volait au-dessus, s'approchait, et là où devait être la frontière, effectivement, on s'apercevait qu'elle y était, ou qu'elle était un petit peu plus loin. Donc il y avait un petit aspect correctif du modèle. Et l'ATR-42, lui, était en dessous, donc nous étions en contact, et avait pour vocation, lui, à essayer d'apprécier plus qualitativement de quoi était fait le « il y a quelque chose » ou « il n'y a rien ». Et tout ça dans le but de dire ensuite aux compagnies aériennes, enfin, dans un premier temps, dans un discours avec les motoristes, en leur disant, ben voilà, la concentration de cendres dans l'atmosphère à tel endroit et de temps, est-ce qu'on peut voler, est-ce qu'on peut pas voler? Alors la question, ça peut paraître simple comme ça, elle était quand même, il y avait beaucoup d'écueils parce que pour pouvoir retrouver des concentrations à partir de télédétection, c'est beaucoup basé sur la forme des cendres. Parce qu'on est basé sur de la rétrodiffusion, et donc si on est sur des formes sphériques, c'est pas la même, on n'a pas les mêmes résultats que si on est sur des formes beaucoup plus erratiques, et où à ce moment-là, personne savait tellement quelle était la forme des particules qu'on mesurait, et donc en gros, est-ce qu'on mesurait une particule en concentration, est-ce que c'est une grosse dans tel volume, ou est-ce que c'est 10 petites? Et c'était pas les mêmes impacts.
Au niveau des moteurs des avions.
Mais voilà pour illustrer également le type de mission qu'on a pu avoir à faire. Aujourd'hui, la recherche est beaucoup, enfin, en tout cas, est très orientée, on va dire, sur les aspects changement climatique et pour consolider les hypothèses du GIEC. Savoir le GIEC fait des hypothèses de trajectoire climatique. Qui repose sur des modèles, et les scientifiques s'aperçoivent de plus en plus que ces modèles, à l'intérieur de ces modèles, il y a ce qu'on pouvait considérer comme des constantes qui finalement se révèlent être des variables, et la qualification de ces variables ont un enjeu majeur parce qu'elles sont susceptibles de faire évoluer les trajectoires de façon bien plus importante que celle qu'on imagine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle de 1,5°, 2°, horizon 2030. Ça pourrait être beaucoup plus. Et donc, beaucoup de recherches, de projets de recherche, voilà, s'attachent à quantifier la nature de ces variables. Et est-ce qu'on est dans des boucles qui vont atténuer, de rétroactions qui vont atténuer le phénomène ou au contraire qui vont l'amplifier?
C'est un travail extraordinaire que vous faites chez Saphir, finalement. C'est utile à plein de gens. Tout ça pour une équipe, tu me disais, de 22, 23 personnes.
Oui, tout à fait. Oui.
Et la partie vraiment compagnie aérienne, vous la faites tourner à 3 pilotes, 2 mécanos. Vu de l'extérieur, comme ça, ça a l'air d'être une charge de travail énorme.
Alors, on a la chance de pouvoir bénéficier du statut d'avion, d'un statut un petit peu particulier, qui est avion scientifique, c'est ce qu'on appelle l'annexe 1 dans le registre de l'EASA. Et donc, ce sont des avions qui peuvent rester sous tutelle nationale. Et donc, à ce titre-là, on n'est pas obligé de passer sous le rouleau compresseur d'une organisation extrêmement complexe telle qu'elle est déclinée pour une compagnie aérienne, et ce qui est normal puisqu'on transporte des passagers. Nous, basé sur le fait qu'on a un avion unique et qu'on ne transporte pas de passagers, on a cette délégation de certifier par nous-mêmes une partie de notre activité et d'en rendre compte simplement à une tutelle nationale. Ce qui nous facilite, c'est basé sur une confiance mutuelle et puis sur le fait qu'on arrive à prouver qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais, et ça permet effectivement de continuer à exister avec un si petit, aussi peu de personnes dédiées à une compagnie aérienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, une compagnie aérienne, c'est beaucoup de personnes, et notamment avec des exigences de ségrégation de poste, c'est-à-dire que la même personne ne peut plus être l'homme orchestre et endosser 12 casquettes de responsable.
Et c'est une société qui est assez unique dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce genre de moyens. Tu parlais de l'Allemagne, des États-Unis, vous êtes pas tant que ça finalement.
Pas énormément, en tout cas aussi complète, parce que finalement l'atmosphère peut s'appréhender très rapidement avec un drone, et donc la première couche d'atmosphère, tout ce qui intéresse on parle beaucoup, en tout cas il se passe beaucoup de choses dans les échanges océan-atmosphère, donc dans les 6 premiers mètres, il se passe beaucoup de choses, donc ce sont des zones de grand intérêt scientifique, donc pour lesquelles des nations avec des moyens peut-être plus limités ont des capacités d'exploration, ce qui en fait la particularité de notre structure et des quelques structures qui existent aux France et ses services, c'est la capacité d'aller du sol jusqu'à la haute altitude. Donc le Falcon 20 monté jusqu'au 410, niveau 410, 12 km, et d'avoir des avions qui permettent d'explorer de façon complète toutes les tranches d'altitude. Et là on vient dans quelque chose de plus complexe, plus élaboré, et qui nécessite des aéronefs dédiés. Et effectivement, les Allemands, les Anglais ont ça en Europe, ça doit être à peu près tout. Les Espagnols, dans une moindre mesure, n'ont pas de jet. Mais... Ou alors après, c'est surtout que là, c'est une structure gouvernementale. Donc on est sous des tutelles CNRS, nationales, Météo France, CNES. Donc il peut y avoir ponctuellement des sociétés privées qui proposent un type de mission très particulier parce qu'ils ont identifié un besoin un peu récurrent, mais c'est quand même, ça reste effectivement des entités plutôt singulières.
Alors, avant de passer à la traditionnelle anecdote, j'aimerais qu'on parle rapidement du futur de Saphir, le Falcon 20 qui est rentré, alors qu'il avait 60 ans, bientôt 60 ans si j'ai bien compris, est rentré au musée Aeroscopia il y a peu, il y a quelques jours. On enregistre cet épisode fin novembre 2022. Comment vous allez le remplacer? Vous avez déjà une idée? Est-ce que vous avez besoin de le remplacer?
Oui, on a besoin de le remplacer parce qu'il couvrait justement la partie haute de l'atmosphère, et donc notamment pour tout ce qui est mission spatiale. Donc quand on dit mission spatiale, c'est tout ce qui couvre l'aspect satellite et développement de produits à vocation spatiale. Et puis, télédétection, tout ce qui permet de voir en visant vers le bas, en étant en haut et en visant vers le bas, donc une colonne d'atmosphère. Donc il y a un réel besoin, et donc aujourd'hui, Saphir est dans le processus de renouveler cet appareil. Donc c'est complexe parce que ce sont des nouvelles normes. Et donc on a un appel d'offres qui est en cours. En tout cas, un appel à intérêt auprès des industriels pour qu'ils nous proposent des plateformes susceptibles d'être modifiées. Parce que la modification de ces avions est quelque chose de délicat. Autant tu parlais du Falcon 20 qui a 60 ans. Donc le Falcon 20 était né en 63. Donc à une époque où les normes de certification n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on veut modifier un avion, eh bien on le fait au standard actuel. Et c'est une opération délicate pour des avions conçus, déjà optimisés. Donc on a du mal à enlever de la matière, on a du mal à rajouter des excroissances et de la traînée sur des avions modernes.
Il y avait déjà un peu de gras.
Le Falcon, c'est mon avion fétiche. Comme on disait, comme il se disait dans le milieu, c'était un avion construit... La peau de locomotive sur des rails de chemin de fer. Donc.
Ah oui, ok, pas mal. Effectivement, il y a peut-être mieux en termes d'optimisation. Et vous avez une idée des avions qui pourraient marcher, des quelques modèles que tu as en tête?
Alors, le mid-size... Alors, oui, ce sont des avions... En fait, on s'adosse à des avions de type corporate, donc des avions des business, des avions de jet d'affaires. Parce qu'ils ont la capacité d'être opérés de façon par des petites entités. C'était le propos. On n'a pas besoin d'être compagnie aérienne. Ce serait sans doute plus compliqué pour nous d'opérer un A320 qui nécessite un environnement un peu plus structuré. Ouais. Donc, sans doute un avion, en tout cas prioritairement, un avion de business jet à modifier. Et là, on se tourne vers des industriels qui ont l'habitude et qui ont pour qui on sait qu'il y a une capacité, une connaissance et une expertise technique à modifier des avions. Donc Dassault, puisqu'on avait déjà Dassault, c'est faire, étant un industriel qui propose des avions de mission également par ailleurs. Gulfstream a également proposé sur la base d'un G5 aux Allemands un avion de scientifique modifié. Bombardier, il y a quelques, ils sont pas nombreux, c'est vraiment une expertise, donc on se tourne vers eux et on attend leur retour technique. Donc le projet est en cours d'instruction, on espère, et en tout cas j'espère beaucoup qu'il aboutira, parce que ce serait l'occasion de.
Ça fera une nouvelle machine.
Une nouvelle machine, exactement.
Bon, eh bien, on arrive à la. On se rapproche en tout cas de la fin de cet épisode. On arrive au moment traditionnel dans l'expérience Shiban, celui de l'anecdote. Alors on en a déjà eu quelques-unes jusqu'ici, on a été chanceux. Mais est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de vol ou même vaguement liée à l'aéro qui t'a marqué ?
Alors évidemment, l'aéronautique en propose beaucoup. Et celle que j'aimerais relater, finalement à cheval sur mes deux carrières, entre ciel et mer, et avec ce fameux avion dont on parlait, ce fameux Falcon 20 GF ou Falcon Guardian. Donc là, typiquement, c'est sur le Guardian, et donc c'est un des derniers avions de la marine avant que j'ai piloté, avant de passer sur finalement son proto et chez Saphir. Et elle est liée à un parcours, un transit. Il a fallu rapatrier cet avion. Et donc, cet avion qui était arrivé, je l'évoquais tout à l'heure, de Tahiti à Fort-de-France, était arrivé en passant par l'île de Pâques, le Chili, et donc sur un transit face à l'est, donc en ayant fait un quart du tour de la Terre. Quand il a fallu le ramener dans son giron auprès de sa maison mère à Tahiti, eh bien, naturellement, on s'est dit, on fait 180 degrés et on le ramène en sens inverse. La difficulté qui a rapidement été identifiée, c'est que l'île de Pâques est un terrain isolé, avec des vents contraires à partir du Chili pour le rejoindre. Et donc, dans ce sens-là, ça ne passait pas, il n'y avait pas moyen, et on ne pouvait pas rajouter de bidon supplémentaire. Donc, c'est posé la question, éventuellement, de le démonter pour le ramener à Tahiti en bateau. Techniquement, il y avait un gros danger de ne pas pouvoir le remonter à l'arrivée. Et donc finalement, a été décidé de le convoyer avec un équipage et de faire les trois quarts du tour de la Terre en partant de Fort-de-France et en allant jusqu'à Tahiti en croisant 18 fuseaux horaires. C'est donc l'ancien marin... toujours marin, parce que quand on l'est un jour, on l'est jusqu'au bout.
Toujours.
qui est attaché aux cartes. Les marins sont attachés aux cartes, ils aiment bien les lignes. Les lignes qui définissent les cartes, alors que ce soit les parallèles, les méridiens, le méridien de Greenwich, les tropiques, l'équateur et bien d'autres. Et finalement, ce voyage a été la consécration de par la traversée de toutes ces lignes, en traversant déjà l'équateur, en quittant Fort-de-France, en passant l'équateur, en descendant vers le Brésil, parce que la transatlantique, cet avion n'était pas fait pour faire des transatlantiques, c'était un petit jet d'affaires, un Falcon 20, c'est quand même grand maximum 12 places dedans, mais en fait c'était 4-5. Hein. Donc il a fallu faire une escale à Ascension, au milieu de l'Atlantique Sud, avant de prendre pied en Afrique. Et donc, une traversée de l'équateur qui vaut dans la marine à chaque fois une cérémonie spéciale et avec un diplôme délivré dont le chef de bord a la capacité d'en délivrer, d'en certifier l'authenticité. Une coupure des tropiques également. Sans ça, c'était rigolo. Avec, à l'approche de Djibouti, qui a pour particularité d'être à côté du lac Assal. Le lac Assal est un lac salé dans le détroit du Goubet qui se situe sous le niveau des mers. Et donc, il eût été dommage de ne pas...
Revenir le truc.
en profiter. Et donc, sur l'approche de Djibouti, annuler le plan de vol pour aller faire un passage sous le niveau de la mer et cocher une ligne géographique supplémentaire.
Ouais.
Tout le monde n'a pas volé sous le niveau des mers.
L'altimètre en négatif.
Exactement.
Pour un marin, c'est pas mal. Mais...
et qui donne lieu également à l'établissement d'un nouveau certificat. Le voyage s'est prolongé en passant par Oman, les Maldives, ou, et puis l'Indonésie. Alors juste avant, parce que cette année-là, c'était la deuxième guerre du Golfe, c'était le SRAS en Indonésie, donc ce qui avait nécessité de godiller et trouver des itinéraires qui évitaient à chaque fois le pire pour essayer de trouver le bien, à défaut du mieux. une traversée de l'Indonésie, puis de l'Australie, pour finalement arriver à Nouméa, qui était une escale sur le chemin, le 17 avril. Le 17 avril, ayant le bon goût d'être la date de mon anniversaire, donc ce qui m'a permis de fêter mon anniversaire à Nouméa le 17 avril, pour cette belle traversée. Mais il nous restait quand même la dernière ligne à traverser, qui est la ligne de changement de date, et ce qui m'a permis de redécoller le lendemain et de me poser à Tahiti, également le 17 avril, et de refaire mon anniversaire. Donc, ce qui m'a permis de faire deux fois mon anniversaire cette année-là.
Le rêve deux fois plus de cadeaux.
et de mettre fin à un périple au bilan de 53 heures de vol, je crois, 23 jours, et je ne sais, 18 fuseaux horaires. Et une belle aventure humaine, parce que l'équipage qui était avec moi, effectivement, a compté aussi dans cette aventure, qui a été émaillée de faits, évidemment, techniques, météo... d'escale autre, mais au-delà de simplement de l'aspect de ces lignes géographiques que je viens d'évoquer.
Voilà, une belle aventure technique, humaine, un peu le résumé de tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique.
Merci à toi, Sébastien, de m'avoir invité.
Et je te souhaite le meilleur chez Saphir. Je te souhaite un bel avion, un beau jet à venir, un Gulfstream, un Dassault, peu importe. voilà, de belles heures de vol.
Merci à toi.
Merci.
Et ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un très bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shiban. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Tu peux également nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et surtout, et c'est très important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Ça nous permet de faire pas mal de choses. De couvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et de continuer à explorer de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux nous faire un don ponctuel ou régulier sur notre Tipeee. Le lien est en description de l'épisode et sur notre site internet xpshiban.com. Je tiens à remercier nos contributeurs et contributrices sur Tipeee et celles et ceux qui nous envoient de gentils messages et nous suggèrent des invités. Sans vous, ce podcast n'existerait pas, ou en tout cas, il n'existerait plus. Et pour terminer, un gros big up à toute l'équipe qui travaille avec moi derrière ce podcast. Maxence, Marek, Victor, Ilia, Thibaut, Léa, Paul et Tom. Allez, prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion instructive, divertissante et inspirante.